Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission humanitaire. Voici les titres. Comment assurer une scolarité normale pour les enfants déplacés internes du pays? Entre manque d'informations et de documents d'identité, les autorités scolaires rassurent que c'est bien possible.
Dans la rubrique invité, Mariam, notre expert en santé sociale, communautaire et comportementale, docteur Amadou Beydjara, nous parlera de la scolarisation et de son impact sur l'évolution des enfants.
Aujourd'hui, dans notre page culture, nous avons l'artiste musicienne Kanissi Libye. Nous irons à la découverte avec Ousmane Nyalibouli.
Installez-vous confortablement et c'est parti pour une demi-heure d'information. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission humanitaire.
À la présentation, Mariam Maïga et Aïssata Diarra. L'insécurité prive des milliers d'enfants de placés internes de scolarité selon un récent rapport du Conseil norvégien pour les réfugiés. Elle prive près de 150 000 enfants de leurs droits fondamentaux, notamment l'inscription à l'école et la jouissance de plusieurs autres droits.
Qu'en est-il de la situation au niveau des sites des déplacés internes? Mamadou Samasekou nous en dit plus.
Je m'appelle Mahmoud Bourainboul, 12 ans.
Ces enfants non scolarisés ou déscolarisés précoces sont ceux du Centre de stratégie de scolarisation accélérée en abrégé SSAP du site officiel des déplacés de Sokoura dans la région de Mopti. Au nombre de 37, ils nous ont accueillis avec l'hymne national en full full day. Bourema Amadou Tall est l'animateur du centre. Il estime que c'est comme une seconde chance offerte à ses enfants qui ont entre 8 et 12 ans.
On évoluait avec UNICEF, mais le Stop Sahel et World Vision, ça a commencé cette année. Ils sont formés pendant une année scolaire. Et l'année scolaire suivante seront réversés dans les systèmes classiques selon leur niveau. À chaque ouverture, il y a une vague qui rejoint les systèmes classiques. Et c'est là depuis 2019. Nous avons 10 centres dans Mopti Sivari environ. C'est le même programme dans tous les centres.
Cette seconde chance est donnée aussi aux enfants déplacés de Bamako et environ. C'est le cas à Sénou. Grâce à Terre des Hommes Suisses, à travers l'ONG ADAC, des enfants ont repris les cours. Comment gérer le cas de ceux qui passent en cinquième année? C'est le grand souci des responsables du site. Ibrahim Hamadoun Barkesari est parmi les responsables du site déplacé de Sénou.
Centre en défi, 108 garçons divisés en 4 classes. Il y aura des enfants quand même qui vont passer à cinquième année. Maintenant, est-ce que nous pouvons encore construire une cinquième classe dans la site? Ou bien ils vont aller rejoindre les autres écoles qui se trouvent ici dans la ville. On vit à un peu la distance avec les enfants qui ne maîtrisent pas les lieux. Ça va être un peu compliqué.
C'est la même inquiétude sur le site de Sokoura dans la région de Mopti. Bourema Amadou Tall, l'animateur du centre, regrette que des enfants qui vont rejoindre le système classique peinent à poursuivre leurs études.
Ils ne payent pas actuellement, mais aussi leur matériel didactique et autres sont pris en charge par les projets partenaires. Maintenant, une fois dans le système classique, c'est ce qui constituera le premier fardeau des déplacés et qui pousse les uns et les autres à abandonner. Un déplacé qui n'a pas quoi nourrir sa famille, si on le parle de frais scolaires, de coopératives, de tenues ou autre, là c'est un problème.
Les responsables du développement social de Mopti affirment que cela ne devrait pourtant pas poser de problème. Ils estiment que cela relève sûrement d'un déficit de communication. Moussa Alassane Samake, directeur régional du développement social de Mopti.
J'ai eu les témoignages du TECAP de Mopti où certains ont eu des difficultés pour continuer dans un établissement parce qu'ils étaient confrontés aux frais d'inscription et les cotisations. Et quand on lui a rapporté ça, il dit qu'il a demandé immédiatement au directeur d'école de les laisser continuer et de ne pas les prendre l'argent. Mais si c'est le cas relatif aux cahiers, aux livres et autres, là il y a des acteurs qui travaillent. À moins que l'information ne soit pas apportée au bon endroit, sinon moi je crois que c'est pas un coup qui peut empêcher un enfant d'aller à l'école.
Cette stratégie de scolarisation accélérée n'existe pas sur tous les sites de déplacés internes. C'est le cas à Kouchala, où ce sont des parents qui se débrouillent pour le suivi de leurs enfants. Madame Koulibaly Amina, membre du comité de gestion du site.
On a essayé de voir comment aider certains qui étaient inscrits dans des écoles. La famille aidait un peu, mais les parents étaient soutenus par des dons alimentaires. Mais par rapport à la scolarisation, je crois que c'est les parents qui se débrouillaient. Maintenant, même là, il y a beaucoup qui ont vraiment abandonné l'école par faute de moyens pour continuer.
Selon des chiffres fournis par l'UNICEF, en 2023, plus de 1100 écoles restent fermées dans le pays pour cause d'insécurité. Une situation qui affecte 350 000 enfants, dont la majorité se trouve dans la région de Mopti.
Un reportage de Mamadou Samasekou et Aïssata avec nous sur ce plateau, notre expert en santé sociale, communautaire et comportementale, Dr Amadou B. Diarra. Nous allons parler de l'apport de la scolarité et son impact sur l'évolution des enfants ainsi que toute la nation. Bonsoir Dr Diarra.
Bonsoir.
Alors Dr Diarra, vous venez d'écouter ce reportage. L'insécurité joue beaucoup sur le système scolaire et compromet beaucoup l'avenir des enfants. Est-ce réellement le cas?
Bonsoir. Effectivement, l'insécurité, quand tu parles de l'insécurité a un impact réel sur le développement de l'enfant. Notamment, l'insécurité, c'est une situation qui va priver les enfants de leurs droits. Si on parle des droits des enfants, selon la Convention de Genève, qui a été adoptée le 20 novembre 1989, qui garantit les droits des enfants et qui protège les enfants. C'est l'insécurité qui fait en sorte que ces droits que cette convention a rassuré pour les enfants, c'est l'insécurité qui vient violer ces droits. Quand on parle de la violation de ces droits, l'un de ces droits, ça, c'est le droit à l'éducation. L'éducation, comme vous le savez, il y a un interlocuteur qui vient de le dire. C'est une situation, l'éducation permet à l'enfant d'abord de recevoir une instruction. Donc, si on parle d'instruction, il s'agit de tout ce qui concerne, ça peut être l'enseignement classique, ça peut être l'enseignement moderne, ça peut être toutes sortes d'enseignements. Ça permet à l'enfant, dans son développement, de recevoir une instruction et de s'épanouir dans la vie sociale. Voilà, donc c'est ça qui fait un peu la différence. Et ensuite, après ça, ça permet à l'enfant de construire son avenir. Donc c'est un droit minimum que vraiment cette convention a garanti pour tous les enfants. Voilà. Donc si l'enfant n'a pas ses droits, c'est l'insécurité qui fait de sorte que cet enfant n'a pas ses droits. Donc si l'enfant est privé de ses droits et l'enfant n'a pas l'éducation comme souhaité, donc ce sera un enfant qui va se sentir un peu délaissé. Qui ne sera pas socialement, qui ne va pas se voir important dans la société. Parce que c'est par la cause de l'insécurité, d'abord, le fait que cet enfant se déplace d'une localité à une autre, donc ça a aussi des conséquences psychologiques si l'enfant n'est pas rapidement pris en charge. Et en plus de ça, tu vas trouver que cet enfant a l'impression d'être séparé de son milieu habituel, au fait. Donc parce que c'est un enfant qui vivait dans une communauté, qui vivait avec ses amis, qui vivait avec ses grands-parents, et se trouve du coup, suite à une situation, l'enfant est privé de tout cela, il va recommencer une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, pour l'enfant, que l'enfant puisse s'adapter, il faut accompagner l'enfant. D'où l'importance de l'éducation. Tu vas trouver que l'enfant était scolarisé, l'enfant était à l'école, que ce soit le Mendersa ou bien autre forme. Tu vas trouver que l'enfant fréquentait quand même l'école. Donc la première des choses, il faut quand même accompagner cet enfant. Après vraiment l'accompagnement psychologique, il faut chercher un moyen pour que cet enfant puisse avoir accès à l'école.
Merci beaucoup, Dr Diarra. À présent, parlez-nous des conséquences de cette non-scolarisation de ces enfants déplacés internes.
Le fait que les enfants déplacés internes sont privés de leur droit d'aller à l'école a des conséquences sur le développement psychologique, sur le développement moral, sur le développement social de cet enfant. Ça commence par quoi? Un enfant qui n'est pas scolarisé, c'est un enfant qui va se sentir dans un premier temps isolé. Il ne va pas se sentir très important dans la société. Donc ça, c'est côté psychologique, c'est un enfant qui est sujet de discrimination dans la société. Les autres sont à l'école, cet enfant, les gens le voient, cet enfant est discriminé, c'est la discrimination. Autre chose, cet enfant, s'il grandit, il n'a pas reçu d'instruction, il n'a pas après un métier, cet enfant, c'est des enfants qui sont vulnérables, qui sont sujets d'être sujets de recrutés par les groupes armés, qui sont sujets d'être utilisés pour les pratiques, l'exploitation sexuelle. Et c'est des enfants qui peuvent s'adonner à la consommation des drogues, à faire les délinquances. Et ces enfants qui peuvent s'adonner à toutes sortes de crimes parce que c'est des enfants qui sont difficilement encadrés par la famille et par la communauté. Donc l'éducation, le fait d'aller à l'école, ça permet à ces enfants d'avoir une éducation et d'être encadrés dans un environnement et les donner des instructions, une éducation qui va les permettre quand même d'entreprendre les bonnes pratiques dans la vie courante et éviter que ces enfants soient exposés dans la nature, des drogues et à des délinquances.
Docteur Amadou Bédiara, vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Le temps d'aller découvrir notre rubrique Sketch avec Zabiatou et Hamadi. Hamadi est inquiet, il vient d'apprendre que les enfants de son frère ne partent plus à l'école à cause de l'insécurité. Il en part à Zabiatou pour trouver une solution.
Allô, mon frère.
Allô, ça va?
Oui, ça va un peu. Et chez vous?
Ah, ça ne va pas trop, parce que les enfants ne partent pas à l'école.
Hamadi? Hamadi, tu es subitement silencieux après ton appel. Qu'est-ce qu'il y a?
Je suis inquiet et très attristé par une situation.
Il y a quoi encore? Raconte.
Mon frère vient de m'apprendre des nouvelles inquiétantes. Je suis angoissé et désemparé.
Ah là, tu me stresses dans cet état. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas?
Figure-toi que depuis l'attaque de notre village il y a 2 ans, mes neveux ne partent plus à l'école. Et pourtant, après l'attaque de notre village, mon frère s'est déplacé avec toute sa famille pour une localité plus sûre.
Tes neveux ne partent plus à l'école depuis 2 ans, Hamadi. Mais qu'est-ce que ton frère a dit comme explication par rapport à cette situation?
Zabiatou, mon frère me dit qu'il a perdu tous ses documents.
Quoi?
Après l'attaque de notre village, ils ont quitté les lieux sans rien emporter. Les bandits armés ont tout brûlé dans leur maison. Donc, il n'a plus de documents, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Comment lui venir en aide? Comment préserver mes enfants des tentations de la rue? Je ne sais vraiment pas quoi faire.
Ah là, vraiment, Hamadi, la situation est inquiétante. Mais ne sois pas triste, il doit certainement exister une solution. Soit les encadrer à la maison, ou encore une possibilité pour eux de retourner à l'école. On ne sait jamais, on va se renseigner ensemble. Et c'est sûr qu'il y a une solution.
Si tu le dis, on verra bien.
Nous retrouvons notre expert en santé sociale, communautaire et comportementale, Dr Amadou Bédiara. Docteur, quelle alternative pour encadrer ces enfants déplacés internes au-delà de l'éducation?
Ok, pour les enfants déplacés internes, la première des choses, c'est des enfants qu'il faut les mettre en communauté. Nous essayons de les mettre les enfants en communauté. Si on parle de communauté, il faut les constituer en famille. Parce que chez les enfants déplacés internes, vous trouverez qu'ils constituent à peu près les 2/3 des enfants qui sont déplacés. Donc il faut les constituer en famille, en communauté, les mettre en famille. Et vous savez que la famille, c'est un moyen qui permet de protéger l'enfant et ça contribue beaucoup au développement harmonieux de l'enfant. Après cela, il faut créer des conditions. S'il n'y a pas l'éducation formelle, il y a l'éducation informelle. Donc, on peut les faire apprendre les métiers. On peut les accompagner à apprendre les métiers dans la vie courante, afin que ces enfants-là puissent avoir quand même, quand ils grandissent, qu'ils puissent avoir une occupation sociale, afin qu'ils puissent être indépendants, à survenir à leurs besoins. Et en dehors de ça, il faut encadrer ces enfants-là dans ces familles-là. Quand on parle d'encadrement, il y a des formations informelles qui sont organisées. Donc, il y a des cours qui sont spécialement conçus pour ça, donc pour accompagner ces enfants à apprendre l'essentiel qu'ils ont besoin pour vraiment mieux apprendre les métiers qu'on va leur proposer et l'éducation qu'on va leur proposer.
Docteur, vous venez de dire tantôt dans vos propos que ces enfants déplacés internes vivent en communauté, c'est-à-dire en famille. Et alors, au-delà des parents, qui pour encadrer ces déplacés internes? Parce que souvent, vous pouvez trouver que ce sont des enfants rescapés de crise sans leurs parents.
Il faut noter qu'un enfant appartient à toute l'humanité. Donc, s'il n'est pas bien encadré, les conséquences, c'est énorme. Ça peut atteindre toute une communauté, toute une nation. Donc, en dehors de la famille, les autorités doivent beaucoup aider dans ce sens. Et dans notre contexte, les autorités, il y a les services techniques qui sont là au Mali, qui sont chargés d'accompagner ces enfants déplacés internes. Mais au-delà de ces services techniques de l'État, il y a aussi les organisations humanitaires donc, qui accompagnent ces enfants dans ces processus. Et en dehors de ça, les enfants déplacés, ils sont quand même dans une localité, dans une commune, dans un village. Donc, la localité dont ils vivent, les autorités de cette localité aussi contribuent beaucoup. Parce que c'est eux qui les reçoivent. Donc c'est eux qui doivent les fournir quand même un environnement, l'accueil, et puis leur donner de l'espace et de les rassurer, de les intégrer dans cette communauté afin qu'ils puissent sentir qu'ils sont membres de cette communauté.
Merci beaucoup, docteur Diarra. Vous restez avec nous pour suivre le reste de l'émission. Aïssata Diarra, allons présent à la découverte de notre artiste de la semaine.
Alors, Mariam, notre artiste de la semaine nous vient du Wassolo, une zone du pays qui a connu beaucoup d'artistes comme Oumou Sangaré, Faye Ramata Diakité et j'en passe. Et celle qu'on va découvrir aujourd'hui essaie de marcher sur le pas de ces grands artistes des renoms. Elle se nomme Kani Sidibé. Faisons sa découverte avec Ousmane Nyaliboli.
Kani Sidibé est notre invité aujourd'hui. Kani, oui. Comment allez-vous?
Je vais très bien.
Ça va?
Ça va.
Ok, super. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus pour que les auditeurs et tes fans puissent connaître un peu plus Kani Sidibé?
Je sais que si je dis ça, beaucoup de gens vont se rappeler qui est Kani. Moi, c'est Kani Sidibé. Je viens de Wassolo. Je suis la fille de Fé Koumba Sidibé.
La fille de Fé Koumba Sidibé. Oui. D'accord. J'imagine que tu es dans la musique, ça c'est depuis l'enfance ou bien c'est quand est-ce que tu as commencé ce domaine artistique?
Bon, déjà, j'ai grandi trouvé dans la famille qui est la maman, elle fait déjà. Elle est décédée le 10 mai 2009.
Père son âme.
Père son âme. Moi, je commençais la musique en 2011.
En 2011?
Oui.
Mais depuis l'enfance, tu imites la maman ou...
Non, depuis l'enfance, j'aimais pas la musique.
Ok.
Voilà, même quand elle répétait avec ses musiciens, moi je sortais ou je prends le coup de terre parce que je n'aimais pas trop la musique. Mais le destin a fait que voilà.
Le destin a fait que voilà, tu es rentrée dans la musique.
Voilà.
Et comment? Qu'est-ce qui t'a poussé?
Un jour, j'étais en train de regarder l'une des concerts de ma marraine, Tanti Oumou Sangaré, et la chanson m'a vraiment touchée. Du coup, je dis à ma soeur, là, moi, je vais être artiste comme Oumou.
Ok.
Donc, depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, je me débrouille.
D'accord. Donc, on va dire, ton idole, c'est Oumou Sangaré.
Oui, oui, oui.
D'accord. Et alors, tu fais quels arts musicaux, donc?
Moi, je fais toutes sortes de musicales, à part le mandingue, je fais blues, je fais jazz, même je suis basée même sur Wassolo.
Ok.
Oui.
Alors, donc, est-ce que tu as fait d'albums?
J'ai deux albums, déjà, Mashallah. Premier, je le fais fin 2019. Le deuxième album, on est dessus, c'est pas encore terminé.
D'accord, mais donc, dans tes chansons, tu parles de quoi concrètement?
Dans mes chansons, je parle de la paix, je parle des femmes, il y a certaines qui. Je parle de trahison, voilà, un peu de tout.
Tu venais de dire Oumou Sangaré est ton idole.
Oui.
Et tu es la fille de Koumba Sidibé.
Oui.
Alors, tu penses que tu pourras arriver à leur niveau ou tu peux même voir les dépasser?
Moi, je pense que je peux arriver à leur niveau et dépasser plus que ça même. On dit en Bambara, Ifa yelena yiri munani maseka yelala ikisega a yiri duguma.
D'accord, mais est-ce que tu es prête pour relever ces défis?
Bien sûr.
Au Oumou Sangaré, c'est pas facile.
C'est pas facile, mais c'est un travail. La musique, d'abord, avant de le faire, il faut avoir confiance à toi-même. Parce que c'est quelque chose, moi, je peux m'inspirer déjà à faire une chanson. Mais comment le monde entier va aimer? Si je n'ai pas confiance en moi, ça ne sera pas facile. Donc j'ai confiance en moi, je sais qu'un jour je vais dépasser leur étape.
D'accord, Kanesi Dibé, avant de se séparer, est-ce que tu peux nous faire un a cappella?
Avec plaisir.
Ok, vas-y, on t'écoute.
Je vous chante déjà une chanson de ma maman et elle a dédié ça à notre ancien président, Feu Moussa Traoré. Voilà.
Okay. Na fora chemi makio oranya filana e mundi oranya filana e laidu cheba e valae ijuna sawi angijuna bisa sebetu kama dengi juna sa soni kunguche ngijuna sao bala chubesa barakulo lade ngijuna sa musani bala ngijuna sa manasa we bala manante kuma manasa semetu kaba manante kuma we bala manaje maliende manandate kuma.
Merci.
Oui, merci beaucoup.
Docteur Diarra, est-ce une découverte pour vous, Kanesi Dibé, ou bien vous la connaissez vous aussi?
Non, c'est ma toute première fois d'entendre sa voix.
Elle est très présente sur les réseaux sociaux. Okay. Elle fait de belles choses, surtout qu'elle a une très belle voix. Partons à la découverte de notre proverbe de la semaine.
Oui, Mariam, notre proverbe de la semaine est « L'ignorance assombrit ». Notre reporter Khalifa Goïta a tendu son micro à des usagers pour qu'ils leur donnent leur avis dessus.
Bonsoir, monsieur. Alors, il y a un proverbe chez nous qui dit que l'ignorance assombrit. Comment est-ce que vous comprenez ce proverbe?
Je dirais que c'est un proverbe très approfondi. L'ignorance assombrit parce que tant qu'on n'apprend pas, tant que l'éducation manque la vie d'une personne, la vie en société ne sera pas du tout facile. Dans un pays où l'éducation n'est pas la priorité, le développement du pays est vraiment difficile. Il y aura toujours des problèmes parce que les gens qui auront la chance d'étudier feront toujours les choses qui leur arrangent. Le reste de la population seront toujours minimisés, seront toujours manipulés et les problèmes vont s'en suivre. Ça m'a beaucoup arrangé parce qu'il y a plusieurs situations auxquelles je m'en sors grâce à l'éducation. Le référendum qui est prévu, le projet de loi, je l'ai lu.
Le proverbe a sa vrai sens. Donc l'ignorance, c'est comme si quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Vous n'avez pas les mêmes visions des choses, les mêmes objectifs en tête, les mêmes créativités des valeurs sociales et culturelles aujourd'hui. C'est-à-dire que tout va à travers celui qui a été à l'école si tes parents ne t'ont pas envoyé à l'école, donc ils t'ont fait du mal. L'éducation est un droit.
Le fait à une personne de ne pas eu la chance d'être lettrée ne fait pas la personne d'ignorante. Seulement, c'est des concepts qui sont un peu péjoratifs qui ont été utilisés dans les contextes de méfiance. Donc, c'est une sorte de moquerie de part et d'autre. D'un côté, ceux-là qui ont eu la chance de faire l'école occidentale pensaient que, n'est-ce pas, leurs confrères, d'ailleurs africains, qui n'avaient pas eu cette chance-là, et n'étaient pas du tout à la mode. Comme je le disais, ils sont ignorants du point de vue des valeurs occidentales, mais du point de vue des connaissances locales, on ne peut pas dire qu'ils les sont totalement. Ils ont quand même d'intelligence qui les permet de fonctionner, parce que c'est cette intelligence-là qui différencie l'être, n'est-ce pas, à l'animal.
Docteur Diarra, je vous voyais hausser la tête avec l'intervention de la dame là, dont vous êtes d'avis avec elle.
Bien sûr. En fait, l'ignorance et l'éducation, ce n'est pas la même chose. Voilà.
Merci beaucoup. Ainsi prend fin cette édition. Merci d'être avec nous pour ce temps de partage. Et en conclusion, vous l'aurez compris,
que les enfants déplacés peuvent aller à l'école sans pièce ou extra de naissance. Il suffit simplement qu'ils s'approchent des services de développement social de leur localité, Mariam.
Les communautés également jouent beaucoup sur l'encadrement de ces enfants avec notre expert en santé communautaire et comportementale. L'encadrement de ces enfants en dehors du système système scolaire est bien possible avec l'appui des communautés. C'était à la présentation Mariam Maïga
et Aïssata Diarra.
Ne décrochez pas car tout à l'heure vous aurez la version en bambara.